Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous interrogeons le technoféminisme, à savoir analyser la place, le statut et la vie des femmes dans nos espaces numériques, identifier les dysfonctionnements, les factures d'inégalité et imaginer des leviers d'inclusion. Alors qu'un rapport du Haut Conseil à l'égalité paru en janvier évoque une montée en puissance des théories sexistes sur Internet, nous verrons comment il peut devenir un endroit dangereux pour les femmes. Nous ferons la lumière sur la communauté méconnu des incels qui propagent leur haine des femmes sur les réseaux sociaux et forums. Assistons-nous à un retour de bâton post-MeToo ou s'agit-il simplement d'une permanence des discriminations à l'égard des femmes et des minorités? Comment la loi peut-elle endiguer ces cyberviolences qui n'ont rien de virtuel? Comment repenser les infrastructures du web pour les rendre plus saines? Et qu'attendre du Web 3 et de sa promesse d'un monde meilleur? Beaucoup de questions et une autrice pour nous répondre. Mathilde, salut, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée dans le numérique, aujourd'hui à la rédaction du média Next Impact. Vous venez de faire paraître chez Grasset « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités », un ouvrage qui revient sur l'histoire et les mécanismes profonds des inégalités hommes-femmes et sur la violence aussi sexiste en ligne, un éclairage qui ne tombe jamais dans une diabolisation du cyberespace. Merci d'être avec nous. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Juliette Devaux qui reviendra sur la menace que représente la technologie lorsque certaines femmes aux États-Unis perdent leur droit à l'avortement. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en direct sur l'antenne de France Culture ou en podcast sur l'application Radio France. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Margaret Hamilton,
Margaret Hamilton,
est une informaticienne et ingénieure systémique.
Catherine Dufour, née en 1966.
Marlene Maltzer est une informaticienne et mathématicienne américaine.
Henriette Avram.
Ada Lovelace est la première personne à avoir écrit quelque chose qui ressemble à un programme informatique.
Alice Lecoq est une informaticienne française.
Actuellement, le monde de l'informatique est paramétré, codé par une population très homogène, essentiellement des hommes blancs de milieux favorisés.
Oh my god, it's a girl.
Une jeune fille
god,
qui va s'intéresser à l'informatique et qui va avoir que des hommes en représentation dans les forums, sur des vidéos, ce genre de choses. Bah peut-être qu'elle va se dire mais en fait il y a pas de femmes dans ce métier, pourquoi est-ce que je le ferais?
Go back to the kitchen.
C'est encore pire pour les e-sportives et c'est encore pire aussi pour les médias, les youtubeuses, les streameuses, les créatrices de contenu.
Si on joue mal, c'est parce qu'on est une fille.
Les seules fois où j'ai parlé, je me suis fait insulter.
J'ai reçu à peu près 40 000, j'ai arrêté de compter, menaces de mort, de viol, appel au suicide ou à tuer toute ma famille et autres insultes.
Can you suck my dick?
Commence à dire ouais, tu vas te faire violer, de toute façon, je te souhaite d'aller mourir ou de te faire violer par ton père.
Enfin, va faire bouffer, connasse.
Well, this is my last video. If I can't have you, girls, I will destroy you. I hate all of you.
Le rire diabolique d'Eliot Roger, jeune meurtrier américain avant la tuerie et cette fusillade en 2014 qui ciblait principalement des femmes. Mathilde Salut, vous êtes une journaliste spécialisée dans le milieu de la tech, je l'ai dit tout à l'heure, ancienne secrétaire générale de l'association Prenons la Une, qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias, et donc autrice de votre premier livre. Quel en a été l'élément déclencheur de ce...
Probablement le mélange justement du début de ma carrière qui depuis le début est spécialisée dans le numérique et le fait que je réfléchissais beaucoup aux questions d'égalité avec Prenons la Une, questions d'égalité de représentation dans les médias, représentation des femmes dans la production médiatique, qui est-ce qu'on interviewe, à quel rôle experte ou témoin, et aussi représentation des femmes dans l'industrie des médias, qui est-ce qui est au rôle de décisionnaire et qui ne l'est pas. Et en fait, je me disais, mais est-ce qu'on peut pas utiliser ce même type de regard critique et l'appliquer au numérique dans la mesure où la transformation numérique, c'est en fait un passage à une économie de l'information, de l'attention. Et en fait, on pourrait presque considérer que toutes les données que traite le monde numérique, c'est des formes très brutes, certes, et très minimales d'informations, mais ça en reste. Et donc, ça veut dire que dès qu'on les trie, qu'on les rassemble, qu'on les hiérarchise, on fait un travail éditorial plus ou moins similaire, ou en tout cas, enfin, plus ou moins comparable à celui que font les médias. Et donc, il m'est venu en tête que je pouvais utiliser les outils de la critique média pour observer le numérique. Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans Technoféminisme.
Voilà, effectivement, une critique à la fois historique, une critique, certaines critiques des usages de communautés dont on parlera, et puis aussi des infrastructures, dans la manière dont le numérique est pensé souvent par des hommes pour des hommes et met de côté, discrimine bon, les femmes et puis d'autres minorités. Est-ce que les femmes ne sont pas une minorité, sont une majorité, on va dire, de public discriminé. Et c'est pour ça que vous parlez justement, vous avez une approche très inclusive aussi dans la manière dont vous allez embrasser ce technoféminisme. Comment le définir d'ailleurs, ce technoféminisme? Il y a aussi cette notion d'intersectionnalité à l'intérieur même du terme.
Complètement. Mon but, bon, technoféministe, c'est un titre qui, à mon sens, explique bien de quoi on va parler. Mais mon but, c'est vraiment de montrer qu'il y a une vraie pertinence et une vraie utilité à analyser le monde numérique avec un regard féministe et un regard intersectionnel, c'est-à-dire en réfléchissant à ce que les outils que l'industrie tech produit font à toutes sortes de populations différentes. Donc si jamais, par exemple, on s'est posé la question du genre, il faut aussi aller regarder si ça ne va pas poser des problèmes en fonction de l'origine sociale, en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction de plein d'autres types de choses qui font les identités de chacune et de chacun. Parce que pour le moment, quand on construit un outil numérique ou technologique, on a tendance à penser, enfin, ils sont souvent présentés comme des outils universels, à vocation universelle, qui peuvent servir à tout le monde. Sauf que dans les faits, on se rend compte que c'est faux. Il y a très souvent des effets pervers, et c'est très souvent des effets pervers qui, socialement, vont toucher des sous-catégories de population qui sont déjà en dehors du monde en ligne, qui sont déjà souvent discriminées.
Oui, d'ailleurs, vous défendez donc cette approche intersectionnelle. Vous parlez même d'un humanisme augmenté. Est-ce que vous pouvez vous expliquer?
Bien sûr. En gros, alors je sais très bien que je sors ce livre dans un contexte particulier en France où il y a de nombreux débats potentiellement assez houleux sur la question de l'universalisme, la question de qu'est-ce que le féminisme, qu'est-ce que c'est que toutes ces idées qui luttent pour l'égalité, est-ce qu'elles partent pas dans des directions dangereuses, parfois qualifiées de toutes sortes de
mots qui se terminent en isme.
Termes, voilà, exactement. Et moi, je suis persuadée, à force d'avoir étudié le sujet, mais vraiment approche journalistique, approche de quête, de nouvelles grilles de lecture pour analyser ce monde numérique que je traite au quotidien, je suis persuadée que la grille intersectionnelle est utile parce qu'en fait, elle permet de construire une vision plus complète de comment la tech, comment le numérique agit sur le réel, comment le numérique agit sur la société au sens large. C'est pas en considérant que tous les citoyens sont exactement dans la même situation qu'on arrivera à faire émerger les problèmes, et si on n'arrive pas à faire émerger les problèmes, on n'arrivera pas à réfléchir à des solutions. Donc à mon sens, il y a une vraie utilité pour la société dans son sens large d'utiliser ce type de lunettes, parce que ça permettra d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire dans Technoféminisme, dans mon livre en fait.
Un livre qui est peut-être... Est-ce qu'il est né aussi d'une certaine forme de déception à l'égard des origines de l'Internet, même si on a parfois tendance à les idéaliser aussi, à l'utopie de l'Internet qui se veut justement inclusif par nature?
Si, probablement. Moi, j'ai été très réceptive à tout l'idéal hacker et toute la culture, toute la mouvance un peu rebelle qui a souvent été mise en avant par le monde numérique. Et en fait, qui est d'ailleurs aussi très présente dans des milieux a priori progressistes et qui vise l'inclusion, comme toutes les communautés open source, les communautés qui poussent à donner des outils à tout le monde pour que tout le monde puisse s'emparer du numérique.
Dans une forme d'émancipation, en donnant l'accès effectivement au savoir, aux connaissances et aux outils.
Exactement. Et en fait, quand on regarde dans le détail comment ces communautés fonctionnent, on retrouve exactement les mêmes inégalités que partout ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a 3 hommes pour une femme, 9 blancs pour une personne issue de... enfin, ayant une autre couleur de peau ou issue d'ailleurs que d'un pays occidental. Le déséquilibre est énorme et donc que certainement ces communautés aussi participent à recréer, à solidifier des formes d'inégalité qui existent en ligne. Mais le problème, c'est que comme le numérique irrigue actuellement tous les secteurs de nos vies et tous les moments de nos vies quotidiennes, non seulement il reproduit les inégalités, mais il risque aussi de les renforcer. Et c'est pour ça qu'il me paraît très important d'étudier cette question et de s'emparer de tous les outils qui existent pour lutter contre ces inégalités.
Alors quand vous dites renforcer, justement, je faisais état du récent rapport qui a été publié en janvier, qui insiste bien, le Haut Conseil à l'égalité, qu'il y a une montée en puissance des théories sexistes et surtout qu'elles sont plus violentes à l'égard des femmes.
Ouais, j'ai pas de...
Janvier 2023, hein, donc ça, ça date d'un mois.
Je n'ai pas de chiffres scientifiques pour prouver ce que je vais dire, mais je suis convaincue qu'au moins en partie, le fait qu'on ait laissé proliférer en ligne sans réel contrôle ou sans réelle inquiétude des thèses très 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 violentes a certainement participé à faire que des idées excluantes puissent gagner en force.
Et être décomplexé, une sorte de...
C'est ça, et être décomplexé. Et en fait, donc en ligne, depuis le début, on permet tous les discours, et techniquement, je suis plutôt pour, la liberté d'expression, c'est super, mais ce qu'on refuse de regarder, c'est que dans les effets pervers que les plateformes, notamment sociales, embarquent, il y a le fait qu'il est possible de les utiliser pour tomber sur quelqu'un et le cyberharceler hyper violemment. Mmh. Et très souvent, les personnes qui sont victimes de ces violences, ça va être des minorités. On sait, par exemple, que les femmes, c'est quelque chose comme 75% des femmes ont été exposées d'une manière ou d'une autre, victime ou témoin, à du cyberharcèlement.
Selon un rapport de l'ONU, c'est 73% exactement des femmes qui ont déjà expérimenté la haine misogyne en ligne.
On sait aussi que les jeunes, et là pour le coup, je crois que c'est plus égalitaire, c'est garçons et filles, mais que les jeunes sont très très victimes de cyberharcèlement. Et en fait, ça fait très longtemps qu'on signale aux plateformes que c'est un problème, qu'il faut fournir des outils pour protéger les utilisateurs, parce qu'en soi, elles nous fournissent un service, nous sommes des consommateurs, et elles devraient protéger leurs consommateurs.
Et des produits, hein, rappelons-le.
C'est ça, exactement. Et en fait, elles ne font rien. Et pendant très longtemps, on s'est dit c'est pas grave, c'est virtuel, c'est un monde à part, ça ne nous touche pas directement. Mais c'est complètement faux, ça a des impacts très 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 réels sur les personnes victimes. Ça va, quelquefois, ça crée des sentiments d'anxiété, ça peut provoquer des symptômes dépressifs. Chez les plus jeunes, il y a eu plusieurs cas de suicide, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment grave, ça peut conduire à des morts. Et bref.
Donc en fait, pour vous, c'est ces réseaux sociaux qui ont été un accélérateur, qui ont amplifié en fait évidemment le sexisme, la misogynie qui est historique, mais qui l'ont rendu plus visible et quelque part qui permettent de faire en sorte qu'il soit plus accepté.
Ils lui ont donné moins de garde-fous que ce qu'il y a dans la vie hors ligne. Dans la vie hors ligne, on s'autorise moins quand même s'il existe encore énormément de violence, on s'autorise quand même moins à aller insulter quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas pour ce qu'il représente, pour la personne qui a décidé d'insulter. En ligne, on le fait parce qu'on peut et parce qu'il n'y a aucune punition qui est tombée pendant très longtemps. Twitter a dû arriver en 2007 en France et être créé un ou deux ans avant. Le premier outil de modération qu'ils aient mis, ils l'ont mis 7 ans après en ligne. Alors qu'on savait déjà, il y avait déjà eu des grosses campagnes de harcèlement sur cette plateforme et que ça faisait déjà longtemps que des utilisateurs et en particulier des utilisatrices demandaient des outils pour éviter ce retournement d'usage.
Après, c'est toujours la question entre le temps de la technologie, le temps de l'usage, le temps de la justice aussi, puisque vous parlez de la loi. Donc effectivement, aujourd'hui, le cyberharcèlement, heureusement, est puni. Après, il faut voir justement comment les conditions de l'application de cette loi peuvent se mettre en place. Mais il est certain qu'on n'insulte pas impunément, gratuitement, dans les textes en tout cas, en ligne, comme dans la rue. Après, il y a toute la question de comment on arrive à remonter aux sources de la personne qui a prononcé le propos. Mais on a des cas, et on pourra y revenir, où par exemple, dans le cas du cyberharcèlement de la journaliste Nadia Adam, il y a eu des condamnations derrière.
La justice, elle a réagi. Bon, elle a réagi avec sa temporalité, qui effectivement est plus lente que celle du numérique, etc. Mais les constructeurs de produits numériques, eux-mêmes, rien. Déjà, bon, moralement, c'est pas forcément un super argument, mais moralement, ils auraient pu faire quelque chose beaucoup plus tôt. Après, pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que, certainement, encore une fois, on a ce fameux biais où ils sont très principalement le même type de profil, c'est-à-dire des hommes blancs qui sortent de grandes écoles. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Melinda Gates en parlant de son mari et de ses copains.
Qui est?
Son mari Bill Gates, des hommes blancs sortis de grandes écoles, donc qui a priori ne voient pas trop le problème. Ils sont assez peu visés par ce type de cyberharcèlement. Ils se disent que les blagues sexistes sur le physique, les menaces de viol ou quoi, ils disent juste ça c'est juste des cons qui parlent, mais laisse tomber, c'est pas grave, quitte le réseau social et ça ne te fera rien. Mais en fait, les victimes à côté, les femmes, les personnes racisées et tout ça, elles vivent de vrais traumatisme dans certains cas, et surtout c'est une attaque directe à leur liberté d'expression. En fait, ce type d'attaque, c'est fait pour les faire taire, c'est fait pour faire taire les féministes, c'est fait pour faire taire toute forme de diversité. Donc je parle beaucoup de ça parce que donc Elon Musk qui a repris la direction de Twitter il y a quelques mois, il parle en permanence du fait qu'il veut permettre à la liberté d'expression de s'exprimer sans limite sur son réseau social.
Il a d'ailleurs rétabli des comptes qui étaient tenus par des hommes très limites, propos haineux,
pour certains qui sont accusés et poursuivis pour des raisons de viol et diverses violences sexuelles. Donc, il utilise toujours l'argument de la liberté d'expression, mais ce qu'il refuse de voir, c'est qu'en fait, toute la violence qu'il autorise et qu'il permet, à laquelle il permet de se déverser, elle empêche d'autres personnes de s'exprimer. Et qui sont ces personnes? Ce sont toujours les mêmes, celles qui ont plus de mal à accéder aux fonctions de pouvoir, comme les femmes, les personnes qui viennent des classes sociales peut-être les plus basses, les personnes de toutes sortes de minorités. On finit par connaître quand on évoque ces sujets d'inégalité.
Alors, vous avez convoqué justement Elon Musk, qui est dans l'actualité et corrobore justement cette idée d'une accélération finalement des propos sexistes et de la misogynie sur les réseaux. Il y a une autre actualité aussi qui pourrait illustrer vos propos, c'est celle-ci.
Des milliers d'autres Américains cherchent à assister à l'audience et en tapant procès Depp Heard, ils tombent facilement sur les chaînes des youtubeurs masculinistes recommandées par l'algorithme.
La stratégie, c'était de diffuser une tonne d'informations pour dominer les résultats de recherche. Comme ça, si vous tapiez « procès Johnny Depp Amber Heard » sur les réseaux sociaux, vous aviez plus de chances de trouver du contenu négatif parce que ceux qui s'organisaient au nom de Johnny Depp avaient déjà inondé le terrain.
Résultat, des milliers de personnes visionnent du contenu fabriqué par les masculinistes. Des milliers de personnes potentiellement influencées sans le savoir.
Voilà, le procès très médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard, extrait là, du documentaire La Fabrique du mensonge, réalisé par Cécile Delarue et passé très récemment sur les antennes de France Télévisions. On voit justement que ce procès a eu toute une existence sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur plein d'autres plateformes, que des masculinistes se sont emparés en fait de ce procès-là en plaidant la cause de Johnny Depp et surtout en discréditant la parole d'Amber Heard. La question est de savoir, et c'est la thèse du documentaire, que toute cette campagne qui a été menée sur les réseaux sociaux a pu influencer justement la justice dans le cadre du verdict. En quoi ce procès pour vous est-il un symptôme de ce que vous évoquez dans cet ouvrage, de la montée en puissance des masculinistes?
Il l'est pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà qu'il démontre, il est très bien ce documentaire, il faut vraiment aller le voir, le documentaire de Cécile Delarue. Il permet de montrer à quel point les mouvements masculinistes sont organisés et le sont depuis longtemps. Dans mon livre, je parle plutôt de comment des groupes masculinistes se sont retrouvés et ont participé à faire monter tout le mouvement d'alt-right aux États-Unis et qui a mené à l'élection de Donald Trump. Dans le cas Johnny Depp, Amber Heard, c'est exactement les mêmes groupes qui s'organisent et qui produisent du contenu avec tous les codes. C'est une bataille des récits en fait qu'ils organisent. Et ils ont tous les codes de la culture internet qui va permettre de rendre leur contenu le plus viral possible.
L'usage des mèmes, par exemple, exactement. Être sur des forums comme 4chan, comme Reddit.
Exactement. Et en créant tout ça, ensuite, ils les lancent sur des réseaux peut-être un peu plus mainstream que ceux que vous venez de citer. Et à la fin, ça permet de toucher plein de gens qui n'ont pas conscience des mouvements qui se passent derrière. Et ça permet d'embarquer tous ces gens dans ce débat sur est-ce que Johnny Depp est correct ou pas versus Amber Heard. Et en fait, c'est aussi une entreprise. Il faut vraiment voir que ça correspond aussi aux logiques de complotisme et de désinformation qui existent d'autres sphères. Là, c'était véritablement une entreprise de désinformation, puisque le premier jugement, celui de 2020 à Londres, a trouvé que Johnny Depp était accusé de 12 des 14 cas de violence rapportés par Amber Heard. Et la campagne qui a eu lieu sur TikTok et ailleurs a réussi à faire croire qu'il avait été acquitté de 12 des 14 chefs de violence. Donc c'est de la désinformation pure et simple, c'est un mensonge, ils ont retourné le fait. Et ils l'ont fait de sorte à pouvoir tourner Amber Heard en ridicule, parce que Amber Heard, c'est une femme, et qu'il ne faut pas toucher à ce symbole qui est Johnny Depp, qui a été ce grand acteur de Pirates des Caraïbes et compagnie. Et donc c'est une démonstration aussi de à quel point...
Et puis à quel point on veut faire taire justement la parole des femmes, quelle qu'elle soit en fait.
Ouais, c'est ça.
Partiment où la femme parle, c'est déjà un problème pour justement ces masculinistes, et il y a vraiment cette entreprise de l'invisibilité, de la ridiculité, de la discrédité.
Alors que quand même les images, et d'ailleurs elles sont montrées dans le documentaire, elles sont assez fortes. Les premières images qu'on a eues de cette histoire, on voit Amber Heard sortir du tribunal et elle a encore un bleu sur la joue. Enfin, on est sur une illustration très réelle de la violence, des violences conjugales, de leur réalité. Mais ça a été absolument inaudible et incompréhensible et ingérable pour ces pauvres petits masculinistes. Et donc ils sont partis dans une campagne très violente. Et il faudrait juste qu'on pense un petit peu à Amber Heard, ce qu'elle s'est pris dans la figure, mais vraiment c'est d'une violence mais sans nom quoi. Le monde entier, c'est un très grand mot, c'est probablement très occidentalo-centré, mais tous les utilisateurs, une grande partie des utilisateurs des principaux réseaux sociaux américains qui se sont laissés embarquer peut-être juste par un tweet, un petit TikTok dans cette campagne, et le plus souvent ça a été pour à la fin tomber sur cette femme qui demandait juste justice parce qu'elle était victime de violences conjugales.
Et aujourd'hui, il annonce dans le documentaire, elle a dû s'expatrier sous une autre identité pour essayer de retrouver une vie à peu près normale, alors que Johnny Depp a repris les studios de tournage. Mais ce qui est intéressant, effectivement, dans cette histoire, c'est de voir comment ces réseaux masculinistes arrivent à s'organiser, à avoir vraiment, à savoir utiliser aussi les réseaux pour asseoir leur idéologie. Vous parlez aussi dans votre ouvrage des incels. C'est assez proche. Comment définir justement les incels ?
Les incels, on va dire que c'est un sous-genre de masculinistes. Eux, ils se déclarent involuntary celibate, avec un très bon accent, donc célibataire involontaire. Ça veut dire que pour eux, c'est un donné dans la société. Quand on est un homme, on doit avoir une femme. Donc déjà, c'est très aussi hétérocentré. Et si on n'en a pas, et bah, c'est parce que les féministes ont pris le pouvoir et qu'elles nous empêchent d'avoir accès au marché de la bonne
meuf. De jouir de notre droit en tant qu'homme d'avoir une femme.
Exactement.
C'est partie d'un droit.
Donc, des idées pleines de progressisme, comme d'habitude. Et ces incels sont très organisés et très dangereux en réalité, puisque il y a plusieurs des attaques de masse, à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe, des années récentes, pour lesquelles on peut retracer au moins une partie du corpus idéologique que s'étaient fait les assassins à ces mouvances-là. Y compris Anders Breivik à Oslo, y compris dans les attaques qui ont eu lieu en Allemagne dans les années 2015-16. Les idées misogynes poussées au maximum par les masculinistes et même par les incels, souvent c'est un moyen d'attirer ces personnes et les personnes les plus instables vers des idées encore plus radicales. Et donc ensuite on peut mélanger ça avec des idées très racistes, avec des thèses complotistes comme celle du grand remplacement. Et ensuite au nom de tout ça, parfois, ils basculent et ils vont tuer mais des nombres énormes de gens. Quoi. Enfin...
Vous évoquez d'ailleurs une sorte d'intersectionnalité de la haine, intersectionnalité interpuséchère. On a démarré l'émission sur ce terme. C'est ça l'intersectionnalité de la haine, c'est justement quand se croisent les conspirationnistes, les complotistes, les masculinistes, l'extrême droite américaine.
C'est pas mon concept, c'est celui de Christine Barr et de plusieurs théoriciennes féministes. Mais oui, c'est exactement ça. C'est que si jamais vous êtes acquis à une cause haineuse, c'est assez facile, petit à petit, de vous tirer vers les autres causes haineuses et ensuite de vous convaincre de suivre au maximum toutes les idées de l'extrême droite la plus extrême et potentiellement de partir en croisade pour aller faire tomber la démocratie, faire tomber le bien commun et la société. Et c'est ce genre de choses qui mènent à des actions violentes comme l'attaque du Capitole à Washington aux États-Unis en janvier 2021, ou comme plus récemment l'attaque de la place des Trois Pouvoirs à Brasilia, au Brésil. C'est toujours les mêmes logiques qui ont lieu. Et à chaque fois en plus, donc pour revenir à cette histoire d'infrastructure, si je peux l'appeler comme ça, qui joue aussi, à chaque fois, l'organisation a lieu sur des réseaux sociaux bien connus. On peut quasiment les suivre en temps réel et visiblement, on manque d'outils pour l'instant pour empêcher ces mouvements, alors que ce sont des attaques directes à terme contre la démocratie, en fait.
Des attaques directes contre la démocratie. Après, c'est vrai que on peut aussi, vous le dites dans votre ouvrage, il y a eu un compte comme Donald Trump et d'autres qui ont été donc supprimés des réseaux sociaux, mais vous dites aussi, mais qui sont, est-ce que cette idée, justement, de censurer ou de supprimer le compte Donald Trump, de revenir à deux hommes sur le bout d'une table en train de se dire s'ils ont le droit ou pas le droit de le faire. Donc il y a toujours pareil cette idée, que finalement, ce sont toujours une poignée de personnes qui se ressemblent, qui décident. Et même qui décident peut-être d'éliminer l'un d'entre eux.
Ouais, un des grands messages, un des grands vœux en fait de mon livre et de ma réflexion, c'est qu'on puisse mélanger beaucoup plus les profils qui participent à la réflexion pour la construction de tous nos outils numériques. Et par mélange des profils, j'entends bien sûr des hommes et des femmes, des gens qui viennent de partout dans la société, mais j'entends aussi diversité des expertises. Parce que si on laisse les informaticiens décider tout seuls de ce qui se passe dans nos mondes en ligne, en fait, il leur manque, aussi brillant soit-il, et je ne veux pas leur dénier leur capacité, mais il leur manque des connaissances en politique, en philosophie, en comment la culture influe sur l'état de la société. Il leur manque des compétences pour vraiment décider de choses aussi importantes que quel est l'état, comment gérer cet espace où une conversation publique d'une ampleur inégalée a lieu. Parce que Meta, quand même, il touche la moitié de la population de la planète. C'est énorme. Et pour parler de cette concentration de pouvoir, à la tête de Meta, il y a Mark Zuckerberg. Et Mark Zuckerberg, il a 58% des parts qui permettent de voter et donc de prendre les décisions finales relatives à cette entreprise. Ça veut dire que personne ne peut lui tenir tête au sein de son entreprise. Mais à côté, on a plein d'autres outils. Nous, on les a tous inventés il y a depuis très longtemps. On a par exemple le pouvoir législatif qui pourrait décider de sévir de diverses manières pour lutter ça.
Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression, en plus avec l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, d'une reconcentration justement du pouvoir, parce qu'Elon Musk ne fait que rappeler à qui veut l'entendre, qui décide seul comment le réseau doit évoluer, qui peut virer n'importe quelle personne à tout moment. Et il fait état aussi, dans ses tweets, dans ses paroles publiques, de sexisme, de misogynie. On sait qu'il a été très proche d'un homme comme Peter Thiel, qui a écrit de nombreuses déclarations en pensant même que les femmes ne devraient pas avoir le droit de voter, par exemple. Pour revenir quand même sur les propos de Peter Thiel. Donc on voit très bien dans quel moment, dans quel instant on se trouve et comment les géants de la tech s'emparent justement de cette idéologie-là. Vous avez l'impression, certains disent que c'est une forme de retour de bâton par rapport à toute la séquence MeToo, ou est-ce que vous pensez que c'est un continuum finalement d'une bataille et des discriminations qui sont permanentes, même dans l'histoire si on parle juste de la technologie?
Très bonne question. Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que dans la partie infrastructure, on va dire construction, les entreprises, comment on a construit les technos, c'est pas forcément un backlash, c'est pas forcément un retour de bâton. C'est que les choses se sont construites comme ça et effectivement, ça fait longtemps qu'on manque de diversité et on n'arrive pas à l'attirer si jamais on essaye. Et dans certains lieux, on n'essaye pas. Par contre, pour ce qui est de la discussion numérique et donc des affaires type DeepHeard, là, c'est peut-être plus de l'ordre du retour du bâton, puisque les masculinistes, ils sont en ligne depuis très longtemps, ils ont vu MeToo exploser et ils se sont dit « Oh là là, les féministes vont dominer le monde !» Ce n'est toujours pas le cas. Et donc, ils organisent et ils s'organisent pour mener des actions choc et essayer de faire rentrer leurs idées dans le débat public, comme ils l'ont fait pour cette affaire Johnny Depp Amber Heard. Côté infrastructure, donc derrière, en back-office, si je peux le dire comme ça, c'est probablement simplement les effets d'une logique, oui, beaucoup plus longue, où ça fait longtemps qu'on manque de diversité parmi les équipes qui construisent les réseaux sociaux, les algorithmes, tout ce qui fait tourner ce monde numérique qui désormais tisse chacune de nos activités. Et après, heureusement, ça fait partie des choses que j'essaye de vulgariser dans mon essai, il y a plein de chercheuses et il y a plein d'activistes et il y a plein de gens qui voient ces problèmes et qui essayent de les décortiquer et d'imaginer des solutions pour lutter contre. Mais il faut qu'on en fasse certainement prendre conscience au grand public pour pouvoir essayer d'amorcer un mouvement plus fort, de correction de la tendance dans laquelle on est, sachant que la tendance dans laquelle on est, c'est, alors d'un côté, celle que tout le monde connaît peut-être maintenant, la tendance surveillance, etc., mais c'est aussi celle d'un renforcement des inégalités parce qu'elles se retrouvent encodées dans les machines et donc d'une certaine façon solidifiées en fait. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inquiète.
Vous pouvez expliquer, Julia, ce côté encodé dans la machine, c'est-à-dire que justement, comme la machine, et là, peut-être que vous faites référence à l'intelligence artificielle, arrive à créer des programmes qui vont intégrer en fait les données existantes, que dans ces données existantes, il y a de nombreux biais, c'est ça que vous évoquez?
Ouais, un très bon exemple, c'est l'intelligence artificielle, parce que d'une part, parce que c'est une technologie qui en fait est en train d'évoluer tous les jours, là, il y a toujours des nouvelles actualités, mais dont on voit déjà des grosses problématiques. Et ce qu'on sait, au moins depuis 2018, si ce n'est avant, c'est que ça encode et ça solidifie donc des inégalités. Et pourquoi ça solidifie des inégalités de genre, des inégalités raciales, des inégalités diverses et variées? Parce que à la fois, ces machines sont entraînées sur des données qui sont des représentations de la société. Or, la société est inégalitaire. C'est aussi parce que les constructeurs, et on l'a déjà un peu évoqué, comme ils ne sont pas très diversifiés, ils ont tendance sans forcément s'en rendre compte. C'est pas forcément une volonté maléfique. C'est simplement comme ils représentent une certaine partie de la population, ils encodent dans leur machine les représentations du monde de cette partie de la population et ils oublient, n'ont pas conscience de toutes les autres visions qu'on pourrait intégrer aussi dans leur machine. Et une troisième raison, un troisième axe qui explique, qui peut expliquer les biais qu'on trouve dans les algorithmes, c'est les buts pour lesquels ces algorithmes sont construits. Si je prends l'exemple d'un algorithme qui serait construit pour vous fournir de l'information, s'il était construit simplement par des médias ou des chercheurs qui auraient à cœur simplement de donner la meilleure information possible, l'algorithme serait construit d'une certaine manière, qui viserait donc à donner la meilleure information possible. S'ils sont en fait construits par une société privée dont le but réel, c'est pas seulement de vous donner de la bonne information, c'est de vous garder connecté, alors l'algorithme sera construit différemment. Et c'est exactement ce qui se passe côté Facebook et Twitter. Ces réseaux sociaux se sont rendus compte que parmi les contenus qui permettaient de garder les gens connectés, et donc pour eux ça veut dire de nous montrer beaucoup plus de publicité, il y avait les contenus clivants, violents, qui participaient à une explosion du discours. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces conversations horribles. C'est parce qu'en fait ça avantage Facebook, Twitter et compagnie. C'est une manière pour eux de faire plus de profit en fait.
Voilà, toute l'économie de l'attention qui fonctionne effectivement sur la viralité des contenus sensationnalistes. Les contenus haineux font partie de cette catégorie-là. On aura l'occasion de reparler juste après la musique et le journal des algorithmes et de l'intelligence aussi artificielle. Mais tout de suite, c'est Suzanne qui va arriver, qui va débarquer dans le meilleur des mondes en trois lettres, SLT.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, bats-toi fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. 2 minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant. De l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille.
Suzanne dans le meilleur des mondes avec ce titre SLT. Tout de suite, c'est les nouvelles.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et puisque nous parlons ce soir de la place des femmes dans la tech, j'ouvre ce journal en vous donnant des nouvelles d'Elisabeth Holmes, illustre fondatrice de Theranos, start-up qui était parvenue à mystifier les investisseurs comme le public sur ses prétendus effets miracles, capable par exemple de déceler les futures maladies d'un patient à partir d'une simple petite goutte de sang. Escroquerie reconnue, la dirigeante a été condamnée à la fin de l'année 2022 à 11 ans d'emprisonnement, mais pour l'instant, elle n'a pas mis un pied en cellule et cette situation interpelle le journaliste américain John Carreyrou qui a révélé l'affaire. bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur lié à son genre, s'interroge-t-il. Elle n'a pas été menottée, ni assignée à résidence et n'a pas eu à porter de bracelet électronique. Ses propos ont été repris dans une récente chronique du Monde. Carreiro, qui a également suivi l'affaire FTX, dont on parlait la semaine dernière, constate que Samuel Bankman a été amené, lui, au tribunal de Manhattan avec beaucoup moins de considération. Un rapport américain de la Commission des complications des peines de 2017 fait d'ailleurs état que les femmes font l'objet de condamnations moins lourdes que les hommes pour les mêmes crimes. Bon, rappelons qu'Elizabeth Holmes a connu une deuxième grossesse, ce qui a pu légitimement expliquer la relative bienveillance de la justice, et qu'elle est attendue pour la mi-avril à la prison de Bryan, au Texas. Mais d'ici là, on peut facilement miser sur un nouveau rebondissement. Les femmes ne sont par contre jamais épargnées par les travers de l'intelligence artificielle. On ne compte plus sur Twitter les nouvelles entreprises de robots conversationnels féminines au design très sexualisé qui viennent proposer une compagnie pour pallier la solitude. D'ailleurs, de Siri à Alexa, ces agents conversationnels empruntent par défaut une voix de femme pour mieux séduire les hommes. La journaliste Lucie Ronfond, dans sa très bonne newsletter Règle 30, fait même état de la recrudescence d'images sensuelles ou pornographiques générées par des IA et qui affluent sur les réseaux sociaux. Quoi de mieux pour se débarrasser des vraies femmes que d'en contrôler des fausses ? Nous ne sommes même plus des objets, mais juste des corps à copier, s'interroge-t-elle. Surtout dans une période où il n'a jamais paru aussi simple et facile de créer des images vraisemblables qui se passent et se dupliquent de compte en forum pour assouvir les pires fantasmes d'internautes insatiables.
C'est l'histoire d'un atome qui a voulu raconter une blague de chimie. Il n'a pas eu de réaction.
Et on termine avec une petite pointe d'amour, ou presque, enfin plutôt presque, puisque je vous parle de l'application de rencontre OkCupid, qui ne sachant plus trop comment se distinguer de ses concurrentes, convoque maintenant ChatGPT pour jouer le rôle de Cupidon. L'appli teste un dispositif pour faire matcher, donc pour faire rencontrer des profils en fonction de leurs réponses à un questionnaire généré par ChatGPT, conçu lui à partir des questions les plus fréquemment posées lors d'un rendez-vous. Donc, si on résume, les rencontres amoureuses traditionnellement provoquées par les algorithmes d'OkCupid passent maintenant par le filtre d'une intelligence artificielle. On est loin du filtre d'amour, tel l'élixir imaginaire. Oui, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Et nous sommes toujours en compagnie de Mathilde Saliou qui vient défendre et expliquer son ouvrage Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Mathilde Saliou, peut-être une réaction par rapport à ce journal ? Est-ce qu'il y a une débrief qui vous a particulièrement fait réagir ?
Je ne suis pas très convaincue par l'affaire OkCupid. D'une part, parce que comme vous venez de le dire, ça fait une deuxième couche d'intelligence artificielle, sachant que la première potentiellement pouvait déjà poser problème chez Tinder. On sait que il y a un score de désirabilité qui est donné aux utilisateurs, mais que les utilisateurs ne peuvent pas connaître ce score. Et bref, on est un peu privé.
Dès le score, effectivement, on en avait parlé avec Judith de Portail dans une précédente émission du Meilleur des Mondes que je vous recommande.
Et ChatGPT, par-dessus, il donne des résultats fascinants, mais cette machine est complètement stupide et ne comprend pas ce qu'elle raconte. Donc je ne vois pas bien comment il peut venir jouer les Cupidons, parce que Cupidon, on peut espérer qu'il ait un petit peu d'esprit. Je ne suis pas complètement convaincue.
Oui, j'en attendais pas moins, effectivement, que vous soyez convaincue. Après, sur cette idée justement d'algorithme et donc d'intelligence artificielle, de la manière dont les intelligences artificielles ont été conçues, dont on parlait justement avant d'ouvrir ce journal, je vous propose d'écouter Isabelle Collet, qui est d'ailleurs grandement citée dans votre ouvrage.
Actuellement, le monde de l'informatique est paramétré, codé par une population très homogène, essentiellement des hommes blancs de milieux favorisés. La conséquence, c'est que ce que produit l'informatique, en particulier l'intelligence artificielle, est plutôt aligné sur leurs centres d'intérêt, leurs préférences, leurs goûts, etc. Comme par ailleurs, le monde lui-même est rempli de biais sexistes, quand l'IA travaille à partir des données existantes, c'est-à-dire des données du passé, les données du futur qu'elle produit sont également biaisées. Ce que cela va produire, c'est que ça risque d'invisibiliser les intérêts, les valeurs, l'existence même, les carrières, etc., des personnes qui ne sont pas représentées par cette population, par exemple des femmes, par exemple les personnes des minorités ethniques.
Voilà, toujours très clair, Isabelle Collet, qui était aussi passée dans cette émission du Meilleur des Mondes. Dans votre ouvrage, vous accordez une grande partie aussi à l'histoire des femmes dans la technologie. On pense bien sûr à Ada Lovelace, mais ce n'est pas la seule. Des femmes qui ont été une des programmatrices, des inventrices, et qui ont été aujourd'hui oubliées. Comment on enfin oublier, on commence du moins à remettre un projecteur sur elle. Comment on explique cette transformation aussi de ces métiers de programmateurs, ou la manière dont les hommes ont réussi à investir justement ces secteurs-là, qui finalement étaient aussi investis par les femmes historiquement?
Dans les années 60, 70, 80, l'informatique est devenue plus visiblement intéressant pour le monde entrepreneurial. Et jusque-là, c'était un milieu très neuf, tout juste naissant, donc pas très formalisé. Mais quand on s'est rendu compte qu'il avait un vrai intérêt pour les opérations de tout un tas d'autres secteurs, on s'est dit, il faut formaliser, il faut embaucher plus. Et qui est-ce qu'on embauche? Et à ce moment-là, on s'est tourné par exemple, vers des psychologues, et il y a deux psychologues américains qui ont sorti cette étude en 1966, qui a une citation vraiment absolument fantastique, dans laquelle ils affirment qu'un bon programmeur, c'est quelqu'un qui aime l'abstraction, aime prendre des risques et n'aime pas les gens. Et en fait, désolé pour vous, mais ce sont des caractéristiques qui sont plus souvent enseignées et sociabilisées aux garçons. Et du coup, même si cette phrase, je l'admets, est vraiment pas sympa pour les programmeurs, ça a poussé les entreprises à aller chercher spécifiquement des gens qui répondaient à ce type de caractéristiques. Et en fait, dans l'étude des psychologues en question, il y avait écrit nulle part que quelqu'un qui aurait de très bonnes capacités d'empathie, de soins du lien social, etc., qui sont des choses qu'on apprend plus aux filles.
Même si on est d'accord que c'est déjà un petit peu limite, comme
oui,
ça essentialise les genres dans les attributs.
Complètement. Mais en tout cas, il y avait écrit nulle part.
Si vous aimez plus le rose et nous le bleu.
Que d'autres types de compétences sociales nuisaient aux capacités informatiques. Mais malheureusement, les entreprises sont allées un peu droit dans le mur et ont commencé à chercher spécifiquement ce profil. Donc du coup, là, c'est un peu la constitution du cliché du nerd aussi. Et puis après, encore une fois, l'informatique n'est pas un monde extérieur au reste du monde social. Les années 60, 70, 80, c'est des années pas forcément très progressistes, en tout cas sur le marché du travail. Il n'y a rien qui est fait pour aider les femmes qui sont encore souvent plus en charge des enfants, par exemple, pour les aider à avoir une carrière et en même temps à s'occuper des enfants. Et donc, il y a toutes ces raisons qui se mélangent.
Et puis, il y a eu cette idée, donc on a essayé justement de ce que vous évoquez dans votre ouvrage, de changer les termes, de rendre encore plus scientifique finalement tout ce savoir-faire, en partant du principe que justement, encore une fois, que si c'était scientifique, ce n'était pas réservé aux femmes, mais c'était plutôt réservé aux hommes.
Il faut peut-être qu'on revienne plus loin en arrière. Au début de l'informatique, déjà, les ordinateurs, ça ressemble à des énormes machines qui ressemblent en fait à des tableaux des entreprises de téléphonie. Donc des tableaux où on prend des câbles et on les branche d'un côté à l'autre pour faire passer le courant électrique là où on en a besoin. Et la téléphonie, à l'époque, c'est une industrie dans laquelle il y a énormément de femmes. Donc ça paraît logique que ce soit aussi à des femmes qu'on demande de venir faire tout ce travail qui va devenir un travail de programmation, en fait, dans les gros ordinateurs, les tout premiers ordinateurs. La partie la plus intéressante aux yeux des journalistes et celle qui fait le plus parler à l'époque, c'est la partie hardware, la partie matérielle, donc la construction de l'objet. Et là, il y a plus d'hommes. Mais la partie à l'intérieur, celle qui fait tourner la machine et qui donc est du software, du logiciel
c'est
plus
ouais.
Des femmes. Et bref, donc on embauche souvent des femmes parce qu'elles sont déjà dans plein de métiers qui correspondent à ça, en fait, qui sont des métiers de calcul, des métiers comme toute la gestion des histoires de téléphonie. Et à l'époque, comme l'industrie n'est pas formalisée, encore une fois, si on trouve, par exemple, une secrétaire qui est très débrouillarde et qui fait ses calculs vite et qui sait gérer ce matériel, elle pourra devenir programmeuse, si le terme est valable déjà à cette époque-là, et on n'aura pas trop de problèmes à la faire grimper dans les échelons. Mmh. Mais à partir du moment où, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a besoin de formaliser parce qu'on veut embaucher beaucoup plus de gens, en fait, on formalise de manière assez excluante parce qu'on se met donc à chercher les profils codés masculins, même si c'est effectivement un peu essentialisant. Et on se met aussi à aller les chercher dans des écoles et donc à créer des formations de toutes pièces. En fait, ces formations, on les ancre beaucoup plus sur des compétences, encore une fois, abstraites, des mathématiques, mais des choses...
C'est-à-dire que globalement, on avait les compétences féminines sur le terrain, qui l'avaient d'ailleurs prouvé par la faisabilité, et on a exclu finalement, en trouvant d'autres voies de ressources et de recrutement, notamment la voie universitaire mathématicienne, on va dire, où on savait que, voilà, d'un point de vue statistique, il y avait moins de femmes qui étaient à cet endroit-là. Et puis, de toute façon, à partir du moment où ce secteur-là est monté en puissance et est devenu un enjeu de pouvoir sur la cité de domination.
Là, c'est devenu assez classique.
C'était assez classique que les hommes qui étaient déjà en place pour pouvoir maintenir et préserver leur pouvoir ont récupéré ce qui faisait le pouvoir de l'époque. J'ai aussi appris dans votre ouvrage la photo de Léna, puisqu'on est dans des perspectives un peu historiques. Pouvez-vous nous expliquer Léna, qui était donc une photo qui est d'ailleurs sans doute toujours utilisée peut-être
pour il me semble qu'elle est toujours utilisée pour certains tests de reconnaissance d'image. Donc, quand on fait un programme, en particulier pour ce cas-là, donc quand on veut développer une technologie de traitement de l'image, la meilleure manière de tester si le programme de Jean est mieux ou moins bien que celui de Pierre, c'est de leur faire tester tous les deux leur programme sur la même image. Il se trouve que dans les années 70, on a décidé, dans une université américaine, de faire un test sur un programme de traitement d'image de l'époque. Et on n'avait pas d'image sous la main. C'était une équipe masculine. Il se trouve qu'il y avait un étudiant qui était là et qui avait une édition de Playboy sous le coude. Et qui a sorti son édition de Playboy, qu'il a ouvert à la page du milieu, donc la page où il y a une Playmate nue. Bon, les ordinateurs de l'époque n'étaient pas suffisamment performants pour pouvoir traiter l'image complète, donc ils ont pris que sa tête et ils ont mis cette image de Léna donc, qui posait nue pour faire leur test de programme. Et depuis, on utilise toujours cette même image qui vient d'un magazine pornographique pour faire des tests de programmes de reconnaissance d'image. Et donc, il y a des experts du secteur, des chercheuses, des informaticiennes elles-mêmes qui disent, le jour où j'ai compris d'où venait cette image, je me suis dit, ah, quand même, il y a un truc, même si elles ne s'étaient pas forcément senties discriminées ou quoi jusque-là, le jour où elles ont compris que cette image, c'était une image d'une femme nue, elles ont dit, ah ouais, il y a quand même une question de genre. Et il y en a qui s'inquiètent que ça participe, que ça fasse partie des multiples éléments qui puissent repousser les femmes, en fait, parce que en gros, ça laisse entendre qu'elles ne sont pas respectées pour ce qu'elles sont. Mais
oui, et puis que c'est vraiment une femme objet aussi.
Voilà, exactement.
Mais c'est vrai que c'est un symbole assez parlant, cette photo, effectivement, du début des années 70 de Playboy, qui encore une fois est utilisée aujourd'hui, qui montre à quel point que ça a été, que ce sont des hommes qui sont à cet endroit-là, qui ne se posent pas la question de savoir justement quels pourraient être les effets d'utiliser une femme nue pour en faire des outils de texte, d'image. Et on voit que c'est encore en place aujourd'hui, que c'est important. Et de le dire, et peut-être ça participe justement à changer des réflexes, à changer en fait la manière dont les femmes doivent être intégrées justement dans le numérique.
Bah, c'est un exemple aussi de données qu'on utilise pour tester et pour participer à construire des outils numériques. Il y a un autre enjeu qui est hyper compliqué à régler, mais il va falloir qu'on travaille dessus, c'est que toutes les bases de données qu'on utilise pour entraîner toutes sortes de choses et pour tester toutes sortes de programmes, il y en a plein dont au moins les bases datent des années 70. Et donc du coup, c'est plein d'idées qui ont potentiellement pas mal évolué depuis. Enfin, les années 70, ça commence à faire 50 ans. La société a eu le temps d'évoluer sur plusieurs thématiques.
Oui, donc on a plein d'idées sexistes, de réflexes machistes et
par
autres.
Par exemple, ouais.
Vous évoquez aussi le rôle des dark patterns dans le sexisme sur les plateformes. Vous pouvez nous donner quelques exemples. Alors, on rappelle, hein, vous pouvez rappeler ce que c'est que les dark patterns aussi rapidement.
Dark patterns, il y a un mot en français qui est en train de m'échapper. En gros, c'est l'idée d'encoder des logiques qui ne seront pas perçues directement par l'utilisateur et qui potentiellement peuvent le tromper. Là, pour moi, c'était pas forcément pour mettre en avant les logiques sexistes, quoique c'était d'autres logiques de domination, mais par exemple, quand Uber utilise sur son application exactement le même type d'algorithme qui pousse à binge-watcher sur Netflix, donc exactement le même type d'algorithme que sur Netflix, et pas forcément d'algorithme d'ailleurs, d'interface qui pousse à continuer l'activité qu'on est en train de faire. Donc sur Netflix, c'est regarder un film, sur les applications d'Uber, c'est conduire une voiture. Ils compliquent le travail de leurs travailleurs, en fait, qui sont d'ailleurs pas leurs salariés. Il y a tout plein de réflexions sur les questions de droit du travail, etc. Il complique le choix de ses conducteurs quand il s'agit de mettre fin à leurs courses et de rentrer chez eux. Donc potentiellement, il les épuise mentalement déjà, parce que c'est plus fatigant mentalement, en fait, de devoir renoncer en permanence.
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait annoncer au chauffeur Uber la prochaine course qu'il pourrait faire et le gain éventuel qu'il pourrait récolter avant même qu'il termine.
Avant
qu'il soit terminé. Ce qui, pour les encourager évidemment à prendre la course suivante, comme Netflix nous encourage à regarder l'épisode suivant en nous confrontant directement l'épisode. Mais on est d'accord que là, c'est pas forcément des dark patterns qui sont utilisés à des fins sexistes. C'est-à-dire que
Non. Ouais. Mais par contre, c'est utilisé à des fins de maximiser les profits de l'entreprise qui crée cette interface aux dépens de, bah, en l'occurrence, des conditions de travail et des conditions de confort minimales de ceux qui travaillent pour eux. Et là, il y a tout un enjeu quand même. C'est pas les mêmes types d'inégalités, mais il y a des questions d'inégalités sociales à réfléchir, je pense.
Évidemment, et c'était intéressant effectivement de le souligner. Juliette Deveau nous a rejoint pour sa chronique du soir. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Qui va s'intéresser à la technologie qui peut aussi se retourner contre les femmes, et continue parfois de se retourner contre les femmes, surtout lorsque le législateur criminalise l'avortement. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis en juin dernier.
Et oui, souvenez-vous, les appels à désinstaller les applications de suivi menstruel s'étaient alors multipliés sur les réseaux sociaux en juin 2022 lors de l'annonce de la Cour suprême. Les femmes américaines craignaient de voir leur smartphone se transformer en mouchard permettant aux autorités de détecter des interruptions volontaires de grossesse en se penchant sur leurs données sensibles. Et ces inquiétudes n'étaient pas infondées puisqu'un rapport publié par la fondation Mozilla, paru en août 2022, démontrait que les applications les plus utilisées par les femmes, Flow, Maya ou encore Clou, entretenaient un flou inquiétant sur leur politique de confidentialité et sur le stockage de leurs données, laissant toute amplitude à ces entreprises privées pour transmettre les données sensibles de leurs utilisatrices aux autorités de police.
Et au-delà de ces applications, c'est tout un dispositif de surveillance numérique qui s'est déployé aux États-Unis pour contrôler les femmes.
Oui, parce que si les big tech ont beaucoup communiqué lors de la révocation de l'arrêt Roe versus Wade promettant de soutenir financièrement leurs employés qui souhaiteraient pratiquer un IVG, ces entreprises restent soumises au Cloud Act, un texte qui date de 2018 et qui leur impose de transmettre les données privées de leurs utilisateurs lorsque celles-ci sont demandées par les autorités américaines. C'est ainsi que Meta a permis à la police d'arrêter une jeune femme de 17 ans en août 2022 pour avoir pratiqué illégalement un avortement dans l'état du Nebraska. Grâce aux conversations privées de la jeune fille transmises par Facebook, la police a découvert que celle-ci avait procédé à l'achat en ligne d'une pilule abortive. Et c'est un autre sujet qui vient d'être mis en lumière par le journal ProPublica. Des dizaines de pharmacies en ligne proposant l'achat de pilules abortives aux États-Unis partageraient les données de leurs visiteurs avec la société Google. Les données collectées sont extrêmement sensibles puisque l'on retrouve les mots-clés utilisés par les utilisatrices pour se rendre sur ces sites, mais il y a également leur localisation. Et la société Google, comme Meta, est sommée d'accéder aux demandes de la justice américaine dans le cadre de leurs enquêtes. Ainsi, si les pharmacies en ligne pouvaient pas apparaître comme un moyen pour les femmes dans l'incapacité de changer d'état, de recourir à l'IVG, cette possibilité semble déjà faire partie du passé.
Alors pour tenter de finir sur une note positive, y a-t-il encore un peu d'espoir ou est-ce qu'on nage définitivement en pleine dystopie ?
Eh bien, comme souvent, lorsqu'il s'agit de liberté individuelle, seule la loi pourrait permettre aux citoyennes de faire respecter leur vie privée. Or, un projet de loi intitulé « My Body, My Data », pensé pour protéger les femmes de cette surveillance numérique, a été rejeté massivement par les représentants républicains au Congrès cet été. Autre moyen pour échapper à cette dystopie technologique, retirer la possibilité aux législateurs de restreindre les droits des femmes en inscrivant, par exemple, le droit de l'IVG dans la Constitution. C'est un espoir qui pourrait peut-être devenir une réalité en France prochainement. Un texte portant sur cette constitutionnalisation essentielle est en effet en cours de discussion au sein de nos parlements.
Et on suivra évidemment cette actualité législative. Merci beaucoup Juliette Deveau. Une réaction à Mathilde Saliot à la chronique de Juliette ?
Oui, un autre moyen qui me semble important de soulever, c'est l'éducation et l'empouvoirement des femmes en question aux outils numériques, et en l'occurrence aux questions de cybersécurité, et peut-être à certains réflexes qui permettraient de les protéger. Alors forcément pas de tout, mais au moins de ce qu'il est possible de protéger en tant qu'utilisateur et qu'utilisatrice. C'est pour ça que la manière dont j'ai construit mon livre, et j'espère de vulgariser aussi beaucoup de notions, parce que je pense qu'il y a une partie des progrès qui peuvent être faits qui le seront simplement en permettant à plus de gens de comprendre comment les choses fonctionnent. Et une fois qu'ils comprendront comment les choses fonctionnent, ils pourront aussi s'équiper sur les sujets qui leur semblent les plus importants. Et donc typiquement pour les questions de protection de données de santé, en particulier des femmes dans des endroits où l'avortement est en danger, elles pourront peut-être mettre en place plus d'actions pour protéger leur vie privée en ligne.
Là où c'est un exemple assez frappant, justement ce qui se passe aux États-Unis, c'est et d'ailleurs c'est un réflexe, puisque vous parlez d'éducation numérique, beaucoup de gens se disent après tout je donne mes données, c'est pas
grave, j'ai rien à cacher. Bon, de toute façon, il faut bien que je donne mes données, c'est gratuit, j'en retire quelque chose. On voit qu'il y a une forme d'insouciance à l'égard de la livraison de ces données parce qu'on comprend pas toujours bien comment celles-ci sont exploitées. Là, on a quand même un cas assez frappant aux États-Unis où ce qui est censé être des recherches assez anodines pour ces femmes-là devient potentiellement un délit, voire un crime. Et là, on comprend bien comment, eh bien, cette vie intime, cette exploitation de vie intime peut se retourner contre elles. Donc, il faut se saisir, je pense, de cet exemple assez dur pour comprendre que livrer ces données peut se retourner contre soi aujourd'hui ou peut-être demain s'il y a un nouveau régime qui change.
En fait, c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai écrit Technoféminisme, c'est que je constatais que il y a énormément de critiques super pertinentes, super intéressantes sur le régime de surveillance dans lequel nous embarque le numérique, et en même temps, je voyais bien que le grand public, il comprend, potentiellement il a peur, mais il ne sait pas forcément quelles étapes mettre en place pour se protéger. Ça paraît un peu difficile, ça paraît éthéré, cette question de mes données privées disparaissent dans le vaste monde numérique. Et en fait, si on prend l'angle des inégalités, parce que on se retrouvera tous à un moment, y compris les hommes blancs sortis de grandes écoles, potentiellement dans une situation où on ne sera pas en haut de l'échelle, où on n'aura pas la forte main, parce que, par exemple, on aura vieilli et il y a beaucoup de problèmes d'agisme dans le monde numérique, parce que, par exemple, on sera malade et il y a aussi des problèmes de validisme. Je pense qu'en prenant cet angle-là, on peut montrer les effets plus concrets de toutes ces problématiques de surveillance, et donc peut-être faire avancer aussi les questions d'éducation au numérique et faire mieux prendre conscience aux gens de pourquoi c'est important de protéger sa vie privée.
Effectivement, même si il y a cette théorie là et puis après on est vite absorbé, ravagé par les dark patterns ou même les nudges dont on parlait tout à l'heure, qui nous imposent, qui nous impliquent, qui nous pousse finalement toujours à plus donner de soi, à pas forcément faire attention aux risques que l'on prend en naviguant sur tel ou tel site. Donc il faut en avoir conscience, mais c'est pas si évident justement d'arriver à ce que cette parole passe lorsqu'elle est confrontée à toute une puissance de marketing qui nous fait pas réfléchir justement, qui fait tout pour qu'on ne réfléchisse pas à nos usages.
C'est pas évident parce qu'effectivement les algorithmes, les machines, même les interfaces sont construites de sorte à nous faire renoncer un peu à notre libre arbitre et à nous faire cliquer bêtement sur tel bouton au lieu de tel autre, céder nos données alors qu'on n'avait pas forcément envie, enchaîner la série alors que si on avait réfléchi, on l'aurait pas forcément fait. Mais il y a un truc assez chouette quand on se met à se renseigner sur les questions de biais cognitifs qui sont très utilisés pour mettre en place ces nudges, ces dark patterns, ces interfaces truquées, c'est ça le terme en français, c'est que une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, ça devient beaucoup plus simple de lutter contre. Parce que c'est aussi simple que ça, un nudge ça fonctionne vraiment très bien si vous n'êtes pas au courant que vous y êtes soumis, mais si vous connaissez la mécanique, vous aurez beaucoup plus de facilité à lutter contre. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'à mon sens, la vulgarisation, c'est super important.
Alors la vulgarisation, ça fait effectivement partie des facteurs, des leviers d'action pour tenter de rendre ce monde meilleur, ou du moins plus égal. Vous parlez aussi dans votre ouvrage d'une éthique du care, donc de la protection, on va dire, en bon français. Qu'est-ce que vous évoquez par là?
Ça, c'est une théorie féministe qui montre qu'il est quand même important de protéger le lien social, puisque en gros, on repousse souvent les femmes dans le champ du privé et du lien, etc. Mais peut-être qu'on peut en faire une force, en fait, et en faire une force pour la société complète. Et il me semble que dans le monde numérique, c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, c'est cette idée de soigner le lien, c'est un peu la base d'Internet. C'était pouvoir accéder à toutes sortes de connaissances, mais pouvoir aussi accéder à des liens avec des gens à l'autre bout de la planète très facilement, se mettre en contact, créer de nouveaux réseaux, et grâce à ça, créer de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de nouveaux projets, toutes sortes de choses chouettes. Il me semble aussi que c'est important parce que ça permettra probablement ce ne sera pas la seule solution, mais ça participera à aider à lutter contre les logiques de radicalisation, que ce soit vers des idées complotistes, vers des idées excluantes, comme on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on manque encore un peu de travaux scientifiques sur la question, mais assez fréquemment, on se rend compte que quelqu'un qui tombe dans une bulle complotiste, par exemple, c'est que hors ligne, il s'enferme, en fait, il perd du lien social.
Donc pour bien comprendre le care, c'est arriver justement à repérer ceux qui sont seuls pour pouvoir les aider dans l'espace physique pour éviter qu'ils sombrent en ligne dans des bulles négatives ou dans des bulles haineuses ou dans des... C'est ça ?
Le care en général, c'est beaucoup plus large et c'est réfléchir à comment mettre le lien social au centre et comment faire une force. C'est une théorie féministe. Appliquée au numérique, je pense que ça pourrait effectivement, comme vous venez de le dire, participer à aider à lutter contre des logiques de radicalisation.
On peut aussi attendre quelque chose de la régulation. On voit qu'il y aura des nouveaux textes qui vont arriver, qui vont être mis en application, comme par exemple le DSA, qui devrait pour une plus grande modération. Est-ce que justement le recours à l'État, alors que ça a été pendant longtemps, Internet s'est aussi développé comme étant un recours justement à l'État. Est-ce que ce retour à l'État, vous l'appelez aussi de vos voeux à la régulation, j'entends ?
Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'on a régulé beaucoup trop tard et que le rôle de nos pouvoirs politiques, que ce soit nationaux, internationaux pour l'Union européenne par exemple, et parfois locaux dans certains cas peut-être, c'est aussi de mettre des limites. Et en l'occurrence, pour certains objets numériques, on n'en a pas mis assez. Et aujourd'hui, on en voit les effets négatifs partout dans la société, malheureusement.
La régulation, on verra aussi si elle pourra s'opérer et si les textes de loi pourront rentrer véritablement en application. Merci beaucoup Mathilde Salieu d'être passée dans le meilleur des mondes pour parler de votre ouvrage, votre premier ouvrage, Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Je remercie la préparation de cette émission Juliette Deveau et également pour sa chronique, Héloïse Robert, notre stagiaire à la réalisation, Camille Mathy, et à la technique ce soir, Florent Bujon. Le meilleur des mondes, c'est terminé.